Père Philippe, métaphysique à Fribourg, le 15 février 83, troisième cours.
Alors, je réponds tout de suite à deux questions posées. Il y a encore des places, vous savez, là. Il y a beaucoup de trous. Il y a beaucoup de trous. Plutôt que de s'asseoir par terre, il va encore mieux avoir un peu de poids. Comment la confusion entre l'intelligibilité et l'être conduit-elle à donner la primauté à la dynamisme plutôt qu'à l'acte? Par exemple, chez Plotin, chez Platon, c'est surtout chez Plotin. Bon, alors, essayons de comprendre. La confusion entre l'intelligibilité et l'être, c'est-à-dire confondre l'intelligibilité et l'être, c'est-à-dire comprendre que l'être est premièrement ce qui est connu. Ramener l'être pratiquement au concept. Il ne faut pas oublier que depuis Suarez jusqu'à Maritain inclus, sans parler de la on a maintenu la primauté du concept de l'être. Et ça, c'est Suarez. Vous savez, les théologiens et les philosophes, ils se répètent. Alors, quand il y a une erreur, c'est très curieux de voir que l'erreur continue. Il y a deux grandes erreurs dans la scolastique que j'ai personnellement, qui me semblent très importantes à dépister. C'est la primauté du concept sur l'être, et le fait de considérer que les transcendentaux sont la première partie de la métaphysique. Ce sont les deux grandes confusions. Et bien, ces deux grandes confusions, c'est Suarez qui les a faites. J'aime beaucoup Suarez. Je connais un bon père jésuite à Paris, que je nomme pas ici, n'est-ce pas, un bon père jésuite à Paris, qui m'a dit, mais père, si on béatifie Suarez, qu'est-ce que vous ferez? J'accepterai pleinement le jugement de l'Église. Parce que c'est vrai que Suarez a été à la source d'une grande idée de confusion, ça, il faut le reconnaître. Historiquement, on ne peut pas dire le contraire. Et que le suarezisme n'est pas le thomisme. Suarez a été quelqu'un qui a une très bonne intention. C'est pour ça qu'on peut le canoniser. On peut canoniser des bonnes intentions. On met en garde après son intention. Mais Suarez était sûrement... Il n'est pas encore béatifié, j'attends. Il n'est pas encore béatifié. Mais c'est le père Garrigou-Lagrange, il ne savait pas, il n'aimait pas du tout Suarez, il ne s'apercevait pas qu'il était dedans. Parce que Suarez a considéré que la métaphysique commençait avec le concept d'être. Et Suarez a considéré que les transcendentaux étaient la première partie de la métaphysique. Et si vous regardez, ça j'ai fait l'enquête, si vous regardez les thomistes, jusqu'au père de finances, le père de finances et de la compagnie, c'est pas étonnant, n'est-ce pas ? Alors, le père de finances est par dedans, pourtant le père de finances est un grand métaphysicien quand même, il a un sens de la métaphysique, mais le père de finances commençait la métaphysique par les transcendentaux. Le père Geiger commençait la métaphysique par les transcendentaux. Et tous les thomistes commencent la métaphysique par les transcendentaux. Or, les transcendentaux, si vous regardez attentivement saint Thomas, les transcendentaux, vous savez bien le lieu sur lequel il faut regarder les transcendentaux. De veritate, question 1, article 1. Il faut dans sa vie avoir lu ça. Hein? C'est pas traduit, mais demandez à votre voisin qui sait le latin de le traduire. Parce que c'est indispensable. De veritate, question 1, article 1. C'est absolument nécessaire de comprendre ça. Eh bien, si vous comprenez attentivement cette question sur les transcendentaux, saint Thomas parle de la réduction
la manière dont on ramène tout à la ratio entis. Il montre comment l'un à l'équilibre verum volum res. Voilà les transcendantaux. Et c'est dit dans De Veritate, question 1, article 1er. Bon, saint Thomas montre que les transcendantaux convertent tout ad rationem entis. Donc, la res, res, ça vient d'Avicenne. Unum Aristote. Verum bonum Augustin. C'est Albert le Grand qui dit ça. Hein? Parce que c'est une très grande question, les transcendantaux. C'est une question très intéressante. Albert le Grand dit textuellement, en parlant des transcendantaux, res et unum, ça vient des philosophes. Verum et bonum, ça vient des saints, Augustin. Et donc, il fait le partage des eaux, Albert le Grand. Il dit, des philosophes vient la res et l'unum. Or, res, ça c'est Avicenne. Unum, c'est Aristote, c'est bien évident. Verum et bonum, Augustin. Donc, saint Thomas reprend dans De Veritate, un saint Thomas qui est devenu indépendant à l'égard de son maître, saint Thomas reprend dans De Veritate en ajoutant aliquid, ce qui n'est pas dans Albert le Grand. Ça, c'est quand même très intéressant. Donc là, l'original. Là, on peut dire que saint Thomas est original. Et il met aliquid. Et grâce à aliquid, il n'a plus besoin de dire. Les uns, ça vient des philosophes, les autres, ça vient des saints. Il les unifie tous en disant tous se ramènent à la ratio entis. Convertantur. Convertantur, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, convertantur? Ils sont convertibles avec l'être. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est rationes. Je dis bien, c'est rationes. C'est tellement difficile à traduire. Hein? Ces rationes sont convertibles avec la ratio entis. Or, quand on parle de rationes, il ne s'agit pas d'un regard métaphysique. La métaphysique regarde la réalité. Rationes, c'est ce que l'intelligence saisit de la réalité. C'est ce que l'intelligence saisit de la réalité. Ratio entis, c'est ce que l'intelligence saisit de l'être. Alors, vous voyez, c'est ce que l'intelligence saisit de l'être. Ça peut se comprendre du côté de la réalité comme ce qui fonde ma connaissance et du côté de l'intelligence, ce que je conçois. C'est pour ça que c'est si difficile à traduire. Et en fond, il faut chaque fois être attentif à savoir ce que ça veut dire. Donc, on est dans une perspective critique, de réflexion critique. On n'est pas dans une perspective métaphysique. La perspective métaphysique ne dirait pas ça. Alors vous voyez cette chose curieuse, qui est très intéressante. C'est très beau cette synthèse de saint Thomas. Et ça, c'est très original à saint Thomas. Mais quand on veut montrer qu'est-ce qu'il y a d'original à saint Thomas, par rapport à Aristote et par rapport à son maître Albert le Grand, il faut tout de suite regarder ça. Et ça, vous voyez que ça, tout de suite, ça c'est tout à fait original à saint Thomas. Saint Thomas est le seul à avoir dit ça. Après, on l'a répété. Tous les thomistes ont répété, tous, Suarez y compris. Tous les thomistes ont répété. Et puis ils ont même ajouté, alors ça c'est Maritain, saint Thomas a oublié le beau poulcroum. Il a oublié ça. Alors on est un sixième transcendantal. C'est curieux que saint Thomas l'ait oublié. Ça, c'est très curieux. Alors évidemment, j'aime mieux dire, j'ajoute à saint Thomas le poulcroum, après tout. Et ça, il y a tout un raisonnement de de Saint-Maritain sur le Pougon pour montrer que le beau doit s'ajouter. Je ne crois pas. C'est pas parce que Saint Thomas l'a dit, hein, c'est tout simplement, et non pas parce qu'Harvey Maritain a dit ça, mais c'est parce que les raisons de Maritain ne valent pas. Ça ne vaut pas du tout. Le Pulchrum convertentur, non pas ad fractione mentis, mais le Pulchrum, c'est le point de vue de la forme. Saint Thomas ne cesse de dire que le beau, c'est la splendeur de la forme. Jamais vous ne voyez dans Saint Thomas que le beau, c'est la splendeur de l'être, ou la splendeur du vrai, jamais. Il dit la splendeur de la forme. Le beau, c'est la gloire de l'être, mais ce n'est pas du tout le point de vue de la transcendantale. Ce n'est pas du tout la transcendantale, parce que c'est au niveau de la forme, ce n'est pas au niveau de l'être. La forme, vous voyez, la forme s'identifie à l'être chez Platon. Mais la forme ne s'identifie pas à l'être dans le réalisme. C'est toute la différence. Si j'étais platonicien, oh, je mettrais très bien le beau comme transcendantal, ça va très bien. Pour Plotin, le beau fait partie hein, des transcendantaux. C'est la splendeur du vrai, c'est la splendeur de la forme, mais la forme égale l'être. Mais pour Aristote, la forme n'égale pas l'être. La forme est autre chose que l'être. Donc on ne peut pas. On ne peut pas identifier les deux. Donc il faut dire que le beau, c'est la notion analogique qui vient immédiatement après les transcendantaux. Alors ça, c'est vrai. Immédiatement après les transcendantaux. Mais ce n'est pas convertible avec l'être. Alors ce qui m'intéresse ici, vous voyez, c'est de considérer que chez Saint Thomas, le point de vue des transcendantaux, c'est un regard vraiment critique. On est au niveau des rationes. Et on n'est pas au niveau de la réalité. Rationes, traduisez, on est au niveau des formes intelligibles. On est au niveau des concepts. On est au niveau de ce qui fonde les concepts. On n'est pas au niveau de la réalité. De sorte que les transcendantaux ne sont pas le point de départ de la métaphysique. C'est le terme de la métaphysique. Au terme de la métaphysique, je veux bien, dans une perspective critique. Mais c'est tout à fait autre chose, parce que si je commence la métaphysique par là, je commence la métaphysique par le concept de l'être. Ce que fait Suarez. Et si vous êtes attentif dans ce que dit Maritain, aussi vous voyez que le concept d'être joue chez lui un rôle très très important. Il n'y a plus d'analyse, il n'y a plus que le concept d'être. Et au fond, toute sa métaphysique consiste à regarder les transcendantaux. Alors, je crois que ça, c'est pas une métaphysique thomiste. Je crois que ça, c'est de l'ordre du néoplatonisme. Parce que dans le néoplatonisme, vous confondez le point de vue réaliste et le point de vue proprement critique. Alors ça, c'est la confusion, vous voyez, entre l'intelligibilité et l'être. Si je confonds l'intelligibilité et l'être, je dis les transcendantaux sont le point de départ de la métaphysique. C'est une très grave question, ça. C'est une très grave question. C'est une question très très importante, qui est difficile, parce qu'elle n'est traitée nulle part. Elle n'est traitée nulle part. Cherchez bien, si vous trouvez un article là-dessus, vous me le direz. Moi, je n'en ai pas trouvé. Et ça me semble très important, parce que c'est un point de départ. Vous savez ce que dit Aristote ? L'erreur au point de départ a d'immenses conséquences dans la suite. Alors, si c'est vraiment une confusion de confondre l'intelligibilité et l'être, de confondre la métaphysique et la critique, à la place de commencer votre métaphysique par le jugement d'existence, ceci est, vous le commencez par le concept d'être. Commencez par le concept d'être. Commencez par le concept d'être, c'est par le fait même être dans l'impossibilité de rejoindre Dieu. Parce que le concept d'être, c'est ce que je conçois de la réalité, c'est donc pas quelque chose de premier. C'est une forme intelligible, c'est une forme intentionnelle, mais c'est pas la réalité. Si je commence ma métaphysique par l'être, par le concept d'être, je ne peux pas dépasser le concept d'être. Et donc je ne rejoins pas la réalité. je relâche pas l'autre. En réalité, je m'enferme dans moi-même. C'est la métaphysique du concept d'être. Alors, pour Suarez, c'est très net. Pour Maritain, c'est aussi très net, hélas. Alors, ça fait comprendre qu'il y a une influence de Suarez. Je n'accuse pas Maritain, parce que tous les thémistes ont dit ça. Même le père Carême. Alors, c'est quand même... Et puis, de pertinence. C'est extraordinaire de voir que c'est une répétition. Alors, réfléchissez un tout petit peu, parce que c'est une question... Je vous dis la réflexion que j'ai fait en disant ça, et en méditant longuement des véritables questions premières, un tout au premier. Savoir ce que c'est que les transcendentaux, ça vaut la peine. Réfléchir sur les transcendentaux, c'est une purge magnifique pour la métaphysique. Hein. Purge métaphysique, parce que ça vous fait comprendre que vous ne pouvez pas comprendre votre métaphysique par le point de vue de l'être. Il faut au contraire vous ouvrir à la réalité. Ne pas comprendre, vous ne pouvez pas commencer la métaphysique par le concept d'être. Mais, alors, comprenons. Ils sont convertis. Alors, pourquoi ça dommage-t-il la liquide? Ça, c'est amusant. Bien, si vous êtes attentif, hein, une critique présuppose une métaphysique. Il doit y avoir donc une correspondance profonde entre les transcendentaux et la métaphysique. Vous allez voir une correspondance, c'est impossible autrement. Autrement, d'où ça viendrait les transcendentaux? Les transcendentaux proviennent tout simplement que, de fait, la métaphysique découvre certains principes, qui sont les principes propres de ce qui est. Découvrant ces principes, je peux réfléchir sur ces principes et comprendre que tout jugement implique une appréhension. Et donc découvrir les appréhensions dominantes de toute la métaphysique. Et les appréhensions dominantes de toute la métaphysique, c'est ces cinq appréhensions. Vous allez tout de suite comprendre. Correspondant à Res, c'est l'usida. C'est la substance. Je découvre la substance comme un principe. Réfléchissant sur la substance, je découvre Res. Unum, je n'en parle pas. Je découvre ensuite le point de vue de la liquide, l'être en acte. L'être en acte. C'est bien la liquide d'être en acte. Puisque c'est indivisible et séparé des autres. Je découvre ensuite Verou, qui est une modalité d'être en acte. On l'a vu. Je découvre ensuite Bono, modalité de l'acte. C'est curieux. Et là, ben oui, c'est la propriété. Alors la propriété, selon les secondes analytiques, c'est le troisième mode de perception. Non, c'est le second mode de perception. Le troisième, c'est le solitaire. Tandis que le deuxième mode de perception. Si la propriété, le second mode de propriété, vous comprenez que la propriété a, au point de vue intelligibilité, quelque chose qui est converti avec la racine. Donc, ceci résume toute la métaphysique d'Aristote au niveau critique. C'est assez extraordinaire, du reste. Saint Thomas ne le dit pas. Ça, faut peut-être jouer là. J'interprète Saint Thomas. Saint Thomas ne le dit pas, mais c'est quand même très étonnant de voir tous les fondements. Dans la métaphysique d'Aristote, qu'est-ce qu'il y a? Nous l'avions vu ce matin. La découverte de l'usia, la découverte de l'être en acte, la découverte de la propriété, et puis l'être en acte, deux modalités, modalité de l'acte, de l'être en acte vrai, bien. Les autres modalités n'ont pas besoin d'être présentes, puisque quand il s'agit de la vie et du mouvement, ce n'est pas directement lié à l'être en acte. Ce sont des modalités qui impliquent deux. D'abord, elles ne sont pas convertibles avec l'être. Vous avez donc le fondement métaphysique, voyez, qui nous est donné directement dans Aristote, et je découvre cela, attitude réflexive. Tout principe implique une appréhension. Tout jugement sur la propriété implique une appréhension. Et donc, je peux découvrir ces cinq appréhensions. Ces cinq concepts convertibles avec l'être. Vous voyez ? Oui ?
À l'idée, ça ne serait pas plus lié à l'essai.
Non, non, c'est lié à l'acte. L'acte sépare. Aliquis, un homme nous dit, c'est ce qui est indivisible et séparé des autres. Et CCRS, c'est nous y. C'est les CCRS. Et je mets plutôt vous y a parce que vous savez ce que dit saint Thomas à propos de Rès, à partir d'Avicenne, il dit que c'est l'essence. C'est la substance, directement. Alors, je dis ça, il faut y réfléchir beaucoup, parce que c'est très important, vous voyez. Si je mets les transcendantaux au point de départ de ma métaphysique, moi, on m'a enseigné la métaphysique en prenant les transcendantaux au point de départ. Ça me gênait beaucoup. Parce que je me dis, mais quoi, on commence par des rationnels si on dit qu'on est dans une philosophie réaliste. Des philosophies réalistes qui commencent par des concepts. La philosophie réaliste commence avec la réalité. C'est la réalité que je regarde, ce n'est pas des concepts. Le concept est quelque chose de second, ce n'est pas premier. Donc je ne peux pas commencer ma métaphysique par les concepts. Or, ce sont des rationnels. Vous comprenez au point de vue de la réalité. Prenez tout simplement, vous allez tout de suite comprendre. Hein, vous allez tout de suite comprendre. Si je prenais les transcendantaux, comme au niveau métaphysique, vous voyez la chose affolante qu'il y aurait. Tout être, du fait même qu'il est vrai. Alors, où est l'erreur ? L'erreur, c'est du non-être. Tout être, du fait même qu'il est bon. Où est le mal ? Donc, le mal n'existe pas, l'erreur n'existe pas, vous avez un optimisme absolu. L'optimisme béant de l'idéalisme. On ne peut pas être idéaliste parce qu'on dit le mal existe. Je suis bien obligé de le reconnaître. C'est comme le fait. Ce bon théologien qui disait, je vais vous enseigner les peines éternelles de l'enfer, je n'en peux rien. Ce qu'il faut dire, les peines éternelles. C'est vrai, le mal existe. Le mal existe, je dois le constater. Je ne peux pas nier que le mal existe. Si le mal existe, je ne peux pas être idéaliste. Parce que l'idéalisme refuse de regarder le mal. Il n'y a pas de place pour le mal dans l'idéalisme. Parce qu'il n'y a pas de place pour du mal dans l'intelligibilité. Le mal, il est dans la réalité. Alors, vous comprenez, je reviens toujours à ça. Parce que c'est la question posée qui me fait ça. Et c'est important de réfléchir là-dessus. C'est très très important. C'est pour ça que ça, c'est pas mal sur le tabé, mais c'est un petit peu. Mais ça vient avec l'un, vous voyez. C'est avec l'un, c'est intéressant. Parce que ça nous fait comprendre que nous pouvons regarder l'un de deux manières. Nous pouvons le regarder comme la ratio. La ratio unius. La raison de l'un. Alors c'est un transcendantal. Ou nous pouvons regarder l'un, propriété de l'être. Deux manières de regarder l'un. Et c'est le même mot, c'est ça qui est terrible. Alors, comment la confusion entre l'intelligibilité et l'être conduit-elle à donner le primat à la dynamis plus qu'auteur ? Si je ramène, si j'identifie l'être à l'intelligibilité de l'être, comme fait Platon, je suis donc en présence d'un être qui est un être pensé. Je suis en présence de la multiplicité de tous mes concepts. J'identifie l'être et la forme intentionnelle. Alors à ce moment-là, je commence à comprendre que la dunamis, qui est ma capacité d'être, qui est ma capacité d'agir, est plus que l'intelligibilité. Donc elle est tout seule. Et l'acte, je le ramène à l'exercice.
Et donc c'est la dunamis qui domine tout. Pourrait-on induire l'acte de la façon suivante? Le lieu, l'ami, l'œuvre, le bien commun sont tous des fins, quoique parfois bien imparfaites, dans des ordres divers. À la source de cette communauté dans la diversité, il doit y avoir un principe réel, par quoi toutes les fins sont fins, c'est-à-dire l'être en acte. Autrement dit, je vois très bien ce qu'on peut dire, c'est de dire que la diversité des fins présuppose une fin. On pourrait le dire. Je ne vois pas d'inconvénient, mais c'est un petit peu, c'est moins direct. Parce que vous voyez, c'est la question de l'ordre des fins qui me fait amener à une première fin. Alors à ce moment-là, j'induis plus une mesure qu'une fin. Et alors je risquerais de ne pas saisir la différence entre la causalité exemplaire et la fin. C'est pour ça que je ne prends pas ce raisonnement. Et j'aime mieux revenir à la réalité expérimentée. Bon, alors, continuons maintenant. Après nous avoir rappelé qu'on ne peut pas commencer une métaphysique par le point de vue des transcendantaux, mais que les transcendantaux doivent être traités en critique et non pas en métaphysique. Bien se rappeler ça, hein. Nous allons essayer maintenant d'entrer dans, très rapidement dans une petite topique de l'indumultiple. Je vous avais dit premier moment, évidemment le premier qui a parlé de l'un, n'oubliez pas, c'est Héraclite. Hein. C'est pour Héraclite que l'un est premier, avant Platon, Héraclite. J'avais tout oublié ça. Héraclite est le premier. Au fond, on peut dire que la philosophie d'Héraclite est une philosophie de l'un et du multiple. C'est assez curieux. La philosophie d'Héraclite, c'est la philosophie de l'individu. C'est intéressant, je dirais, à on ne le dit pas souvent, mais je crois que c'est très vrai. Que la philosophie d'Héraclite, c'est la philosophie de l'individu. Alors, Héraclite montre les contraires. Dès qu'on est en face des contraires, on est en face des multiples. Il essaie de voir l'harmonie des contraires. Et à partir de l'harmonie, il voit l'un à travers le logos. Ça, c'est Héraclite. Héraclite, le doux obscur. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Héraclite, c'est un philosophe extraordinaire. Il est doux, bien qu'il mette le feu au-dessus de tout, mais il est doux quand même. Hein. Alors, il est très doux, Héraclite. Il voit l'harmonie des contraires. Le Logos, le premier à découvrir le Logos. Hein. C'est intéressant que Héraclite est le premier philosophe grec qui parle du logos. Et le premier philosophe grec qui parle, non, c'est pas le premier, qui parle de l'un. Mais c'est le premier qui met l'un au-dessus de tout. Il met l'un égal Zeus. Mais au fond, on serait en face du monothéisme. Zeus, c'est peut-être que l'un. Alors, l'un et le multiple sont très bien. Alors, évidemment, où Héraclite pêche, c'est qu'il y a comme une espèce d'immanence de l'un et du multiple. Il est tellement saisi par l'harmonie et l'ordre qu'au fond, ces l'un et le multiple sont l'un dans l'autre. On ne peut pas les séparer. Mais c'est intéressant de se rappeler que Héraclite, 545 ans avant Jésus-Christ, à peu près, Héraclite d'Éphèse, il ne faut pas l'oublier, Héraclite d'Éphèse, eh bien, c'est celui qui est le premier, le philosophe de l'un et du multiple. Beaucoup plus que Parménide. Parménide parle bien de l'un, mais on peut y mettre l'être au-delà de l'un. Et c'est la différence. Héraclite met l'un au-delà de l'être, et Parménide met l'un, l'être au-delà de l'un. Donc vous avez déjà deux positions qui seront les deux positions qu'on retrouvera tout le temps. Quand vous êtes en face d'un néoplatonicien, demandez-lui s'il met l'un avant l'être. Bon, si il commence à hésiter, vous dites faux néoplatonicien. Un vrai platonicien affirme que l'un est avant l'être.
Alors, quand il vous affirme nettement que l'un est avant l'être, vous pouvez commencer à faire aller. Vous pouvez commencer à discuter, dire, bon, ah, tu dis que l'un est avant l'être. Ça, très bien. Et alors, toi, tu es multiple. Ah, c'est évident, enfin, l'homme est une pie, est une cathédrale de molécules. Il est multiple. C'est une complexité invraisemblable. Ah, tu es multiple. Et alors, si tu es multiple, tu existes. Tu es l'un, tu es pas l'un. Alors on a l'un dans le multiple, mais l'un dans le multiple, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut essayer de comprendre, c'est, on va le voir, c'est un problème très important. Donc, Héraclite, Parménide, Parménide met l'être au-delà de l'un. Puis ensuite, vous avez Platon. Platon, le grand philosophe de l'un, ça je vous le dis cela. Le Parménide, hein, regardez le Parménide, de Platon, vous voyez, c'est intéressant de voir, c'est intéressant, parce que c'est juste l'inverse de Platon, de Parménide. Mais entre Parménide et Platon, il y a Zénon, il ne faut pas l'oublier. Et dans le Parménide de Platon, c'est Zénon qui est en cause. Et alors c'est Zénon qui est en cause, et c'est Zénon qui affirme que l'un est au-dessus de tout. Alors pour Platon, l'un est au-dessus de tout. L'un est au-delà de l'être, parce que l'être est au niveau de la multiplicité. Donc, l'être est dans l'ordre de la participation. C'est très curieux. Tandis que l'un est l'imparticipé. L'un est imparticipé. Alors, vous avez Platon, vous avez Plotin, vous avez Proclus, vous avez Damasus, tous les néoplatoniciens. Il faut connaître un tout petit peu les quelques grands, hein, parmi les néoplatoniciens. C'est intéressant. Platon, Plotin, Proclus, Damasus. Il faut qu'on connaisse un peu ces grands bonshommes. C'est quand même des néoplatoniciens. Les néoplatoniciens, c'est une philosophie qui a une dignité, une grandeur. Hein. La suite des néoplatoniciens, c'est l'ontologie. L'ontologie qu'on retrouve ensuite en philosophie après les théologiens, l'ontologisme moderne, c'est la conséquence du néoplatonisme. Je crois que l'ontologisme naît du néoplatonisme. Et des ontologies sont nées d'athéisme. Ça, c'est une chose très curieuse. Donc, les néoplatoniciens préparent le lit à l'athéisme. Pourquoi ? Parce qu'il met de fait l'un et le bien au-delà de l'être. Et donc, l'un et le bien sont pour eux l'absolu. J'essaie de comprendre ça progressivement. Parce que c'est quelque chose qui ne peut pas. Qui est irrationnel. L'un est irrationnel, le bien est irrationnel. Il est au-delà de l'être. Et pour Plotin, vous savez bien, de l'un provient le multiple, et le multiple tourne vers le bien. Le double mouvement d'émanation et de retour. Pour Aristote, citons simplement Aristote ici, sans rentrer trop de temps. Pour Aristote, face à Platon, Aristote considère que au-delà de l'un, c'est l'être. Le toéimai est premier. Là, il reprend la ligne de Parménide. Et il dit textuellement que le propre de la métaphysique, c'est de regarder le toon et en. Le toon et un. C'est ça qui est vraiment l'objet propre de la métaphysique. Et à l'intérieur de la métaphysique, il traite de l'un. En considérant que l'un est lié à l'être. L'un acolyte de l'être. Et c'est pour ça que vous avez dans le livre Yotta tout un long traité sur l'un et le C'est très intéressant de lire le livre Iota. Il est très difficile. Parce que d'une certaine manière, c'est dans le livre Iota que vous comprenez comment la métaphysique est une science. Et le livre Iota va lier, et c'est pour ça que c'est très difficile dans le livre Iota, va lier constamment le point de vue de Nousia et le point de vue de Marx. Les deux principes qui aboutissent l'un et l'autre à l'un. Pourquoi telle réalité est une? Pourquoi suis-je un? Pourquoi suis-je un? Posez-vous la question, vous avez quand même votre unité. Pourquoi suis-je un? C'est parce que j'ai une substance. À cause de l'ousia, je suis un. Pourquoi je suis un dans mon existence? À cause de mon acte. Donc vous voyez, vous essayez de comprendre l'un en fonction des deux principes, la substance et l'acte. Donc pour Aristote, l'un est acolyte de l'être. C'est l'expression qu'il prend tout ça. L'un est acolyte de l'être, autant de fois se divise l'être, autant de fois se divise l'un. Et la division de l'être et la division de l'un sont parallèles. Et donc comme l'être est analogique, l'un est analogique. Et dans le livre Zeta, Aristote n'hésitera pas à dire que l'un et l'être ne peuvent pas être la substance. Donc il les met toujours en parallèle. Il les met toujours en parallèle. Le parallèle entre l'être et l'un, c'est très intéressant de voir ça chez Aristote. Il le traite constamment, mais en comprenant que l'un est acolyte, c'est-à-dire il suit, il vient après. Je ne peux pas comprendre ce que c'est que l'un sans comprendre ce que c'est que l'être. Je ne saisis pas l'un avant l'être, mais je le saisis pleinement par l'être. Oui. Tandis que pour Platon, on saisissait l'un indépendamment de l'être. L'un avait son intelligibilité propre au-delà de l'être. Bon, on peut dire que Platon et Aristote sont les deux grands philosophes de l'un et du multiple, mais de deux manières totalement différentes, puisque pour Platon, le problème de l'un et du multiple est central, pour Aristote, le problème de l'un et du multiple est secondaire. Donc il n'est pas premier. Il est essentiel, mais il est secondaire, il n'est pas premier. Donc c'est tout le livre Iota. Je ne traite pas plus ici. Il est évident que nous retrouvons, alors, chez les pères de l'Église, la doctrine des stoïciens, la doctrine du néoplatonisme et la doctrine d'Aristote. Alors, vous retrouveriez tout le problème de l'un chez saint Thomas. Je ne crois pas que chez saint Thomas, il y ait une diversité par rapport à Aristote, par rapport au problème de l'un et du l'autre. La seule différence que je vois, c'est que, et c'est assez curieux, quand il s'agit de préciser comment ce qui est se divise en substance et accident, que ce qui est se divise en l'être, en acte et l'être en puissance, saint Thomas dit ce qui est se divise en un et multiple, chose qu'Aristote ne dit jamais. Alors, pourquoi, ça c'est une question intéressante au point de vue historique, pourquoi saint Thomas dit-il que ce qui est se divise en un et multiple? Comme si un et multiple divisaient l'être. Substance et accident divise l'être. L'être en acte et l'être en puissance divise l'être. Mais l'un et le multiple, selon Aristote, ne divisent pas l'être. Ça vient après. Une propriété ne divise pas l'être. C'est impossible. C'est une conséquence. Alors c'est très curieux. Alors est-ce que c'est un Thomas qui là emploie un langage qui n'est pas assez précis? Ou est-ce que saint Thomas, quelque chose est rien à la tête? Ce serait l'objet d'une thèse. Très difficile.
Très, très difficile. Et personne ne pourrait vous corriger.
C'est intéressant, pour des sujets, personne ne peut corriger. Je suis persuadé que personne n'a réfléchi dessus. Comment c'est-il que Adam a dit que ce qui est se divise en un lui. Alors qu'Aristote ne le dit jamais. Alors, évidemment, on pourrait donner comme argument, voilà le néoplatonisme de saint Thomas. C'est vrai, diviser, dire que l'être se divise en un et petit, ça c'est du néoplatonisme absolu. N'est-ce pas ? Alors on pourrait dire, voilà, voilà, là vous prenez la main dans le sac. Vous voyez bien ? Et c'est curieux que ceux qui disent que saint Thomas est néoplatonicien n'ont jamais employé cet argument. Jamais, alors que ça me semble l'argument le plus intéressant. Que de fait, l'un multiple divise l'être dans la perspective du néoplatonisme, et que saint Thomas, lui, alors dit ça, alors qu'Aristote ne le dit pas. Alors on pourrait dire, vous voyez, que saint Thomas est moins soucieux qu'Aristote de combattre le platonisme. Ça, c'est vrai. Aristote est directement face au platonisme. Et donc, face au platonisme, Aristote fait grande attention de comprendre que la distinction entre un et multiple ne touche pas immédiatement l'être. Puisque l'un est acolyte. Donc, s'il est acolyte, il n'est pas l'être. L'acolyte n'est pas celui qui le suit. Mais ça n'irait pas. Donc l'un n'est pas identique à l'être, et le multiple n'est pas identique à l'être en puissance, ni identique à l'être en accident. Il suit. Alors on pourrait dire, vous voyez, qu'Aristote, étant tellement soucieux de bien se distinguer de Platon, montre avec beaucoup de netteté que l'un est acolyte, donc on devrait dire de lui. Saint Thomas est plus loin. Saint Thomas n'a pas du tout la même attitude vis-à-vis du néoplatonisme que celle d'Aristote. Ça, c'est très vrai. En théologien, saint Thomas absorbe beaucoup plus le néoplatonisme. Il l'absorbe. Et c'est peut-être à cause de ça qu'il dit ça. Il faut au moins savoir. Quand saint Thomas parle de l'un et du multiple, il dit que ça divise l'être. Ça a quand même un petit intérêt. Il ne faut pas croire que c'est uniquement une question d'érudition. C'est une question de position de saint Thomas par rapport à la métaphysique. Je crois que c'est important à souligner. Après saint Thomas, on peut dire que dès qu'on retourne vers le néoplatonisme, or vous savez bien, immédiatement après saint Thomas, on est revenu à Avicenne, donc une position néoplatonicienne, Henri de Gand. Alors chez Henri de Gand, le problème de l'un et du multiple reprend une importance capitale. Ça c'est sûr. Chez Don Scott aussi. Beaucoup plus important que chez saint Thomas. Autrement dit, on voit très bien que tous ceux qui sont sous l'influence néoplatonicienne redonnent au problème de l'un et du multiple la place principale. Là, on a une constante. Chez les modernes, quel serait le philosophe de l'unité ? Quel serait pour vous le philosophe de l'unité ? Le philosophe qui met l'un et le multiple avant tout. Tout le monde dit de me dire ça. Qu'est-ce que vous mettriez ? C'est intéressant quand même, hein ? Oui. Hegel, sûrement qu'il y a chez lui cette tentation permanente par le point de vue, sa dialectique. Oui, la synthèse. C'est l'un à la place de la fin. À la place de rechercher la fin, la finalité, on recherche ce qui fait la synthèse. Or, il est bien évident que c'est plutôt le tout que l'un. Je dirais que la métaphysique et la philosophie de Hegel, c'est plus la philosophie du tout que la philosophie de l'un. Alors, évidemment, le tout est une certaine unité. Ça, c'est sûr. Mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Or, Hegel, c'est la philosophie du tout. Y a-t-il une philosophie de l'un autre que Hegel? On reconnaît que Hegel, c'est très vrai, c'est la synthèse. Mais la synthèse, c'est le tout. C'est les deux parties qui s'unissent dans le tout. Et le tout n'est pas uniquement une philosophie de l'un. Hamelin. Hamelin. Néo-hegélien. Hamelin met au-dessus de tout la relation. Mais la relation, c'est pas là. La relation implique toujours deux en un. Donc, on retrouve le tout. Deux en un, c'est le tout. Alors, il y en a un moderne, qui n'est pas très connu, Duméry. Duméry qui a une position très très particulière et qui veut montrer que c'est l'énoncé, c'est l'unité qui commande tout. Alors il a des reprises de Plotin assez curieuses et assez étonnantes, où il veut montrer que toute sa philosophie, c'est la philosophie de l'âme. Et c'est pour ça qu'il ne dit pas du tout pour la question des preuves de l'existence de Dieu, il reprend tout problème de montrer qu'il y a un. Je crois que c'est le philosophe moderne qui est le plus axé sur l'un, dans toute sa pureté. Autrement dit, c'est le plotinisme qu'on reprend dans toute sa force. Alors si on reprend Plotin dans toute sa force, on arrive vraiment à faire ça. Vous voyez, Duméry va, partant en quelque sorte d'une position d'ordre phénoménologique, veut aller au-delà